Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Nathalie Sarraute a une vision protoplasmique de notre univers intérieur. Ôtez la pierre du lieu commun, vous trouverez des coulées, des baves, des mucus, des mouvements hésitants, amiboïdes. Son vocabulaire est d'une richesse incomparable pour suggérer les lentes reptations centrifuges de ces élixirs visqueux et vivants. Dans la préface qu'il rédigea pour Portrait d'un inconnu, paru pour la première fois en 1948, Jean-Paul Sartre soulignait de cette image toute reptilienne la singularité de l'écriture de Nathalie Sarraute. En 1976, dans un entretien accordé à Viviane Forrester pour Poésie ininterrompue, elle racontait son travail d'écrivain et la constance de cette recherche centrée sur ses mouvements intérieurs qu'elle appela quant à elle, dès son tout premier livre, « Des tropismes ». Première diffusion sur France Culture, le 8 février 1976.
Nathalie Sarraute, votre œuvre nous a permis à tous de découvrir ce qu'on ne savait pas sur à la fois l'écriture et les êtres. Depuis Tropisme, qui est paru en 1939, jusqu'à Vous les entendez, qui est paru en 1972, et en passant par Portrait d'un inconnu en 48, Planétarium en 59, Les fruits d'or en 63, Entre la vie et la mort en 68. Je ne cite que quelques titres et un peu au hasard. On a découvert des régions nouvelles, des régions obscures, que les écrivains jusqu'alors ne s'en étaient pas approchés. Pour eux, le drame était quelque chose de linéaire. Il était contenu dans l'événement, dans le déroulement des événements, dans le caractère des protagonistes, dans des mouvements qui étaient, enfin moi je les vois horizontaux. Et vous, vous avez eu le courage de voir et la possibilité de voir que le drame existe en chaque corps, en chaque être, à chaque instant et à chaque seconde. Et dans les moments qui paraissent les plus naturels, les plus tranquilles, et vous l'avez dit avec les mots les plus simples, et on a découvert là que dans chaque mot prononcé par un être, dans chaque mouvement, il y avait en sous-sol les pires secrets, les pires drames, les pires malaises. Et on a l'impression, à lire vos livres, même lorsqu'ils se passent dans les lieux les plus simples, je pense à Vous les entendez, qui se passe dans une maison de campagne, et c'est une famille tout à fait paisible et tranquille, et on a l'impression d'un état extrêmement tragique, comme si tout l'effort et toute l'activité de chacun à chaque instant était de tenir en suspens une menace permanente. Et je me demande comment vous êtes parvenu à exprimer cette dilatation de chaque instant, de chaque mot, comment vous avez eu le courage de le faire aussi.
Vous voyez, cette menace, c'est très curieux. Quand vous me le dites, je me rends compte que c'est exact, que ça existe dans mes textes. Je n'en ai pas du tout conscience en travaillant. J'ai l'impression que j'ai besoin de moments qui sont des moments de bouillonnement, des moments très intenses. Et alors, pour que ces moments se produisent, il faut quelque chose qui sème le désordre. Il faut une crise, il faut que dans la paroi lisse de l'existence, il y ait un trou qui se produise tout d'un coup, une fêlure. Et alors, elle m'est nécessaire, mais je n'ai pas conscience ni du tragique, ni de la menace, ni de quelque chose qui serait beaucoup plus pénible que la vie que tout le monde mène. Tous ces mots ne m'effleurent même pas. J'ai l'impression que c'est comme ça, c'est là, et je ne qualifie jamais ça. C'est comme ça, et il faut pour moi que ça soit comme ça pour que je puisse arriver à couler ces mouvements dans une forme qui est assez de vibration, qui elle-même soit en mouvement. Et alors c'est pour ça que je m'attache à ces moments-là. Ce sont des moments de rupture, parce qu'évidemment quand tout va bien, ben, il ne se passe rien. Des moments où quelque chose d'insolite. Et alors justement, ce produit, ce mot menace me met sur la voie, parce que en effet, cette menace est nécessaire dans ce sens que c'est quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Parce que quand il y a un danger qu'on connaît, eh bien il est clair, évident, on n'a pas envie de chercher, il n'y a pas ce mystère, il n'y a pas cette recherche. Tandis que la menace est justement quelque chose dont on ignore ce que c'est. C'est quelque chose qui fait que toutes vos forces se concentrent pour essayer de le déceler, de le cerner. C'est exactement mon état quand j'écris. Ça doit être quelque chose de menaçant, parce que c'est quand quelque chose est menaçant qu'on commence à s'agiter, on regarde sous son lit parce qu'on a l'impression qu'il y a un voleur qui est caché sous votre lit, sinon on ne bougerait pas. C'est mon état quand je travaille.
On a l'impression justement d'une recherche constante. On a l'impression que dans les moments les plus simples tout de même, ce sont des moments de crise certainement, mais cette crise semble être déclenchée par fort peu de choses, par des choses qui paraissent tout à fait anodines aux gens et qui passent inaperçues pour la plupart des écrivains.
C'est exact aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est un point très important. C'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui se dissimule sous quelque chose d'anodin, sous une apparence quotidienne. C'est ça qui m'intéresse, parce que si c'était quelque chose de connu, une perturbation qui a déjà été enregistrée, qui a déjà été montrée, qui porte un nom, tel ou tel malheur, tel ou tel sentiment désagréable, ça ne m'intéresse plus, ça a été très bien fait, admirablement. Ça fait déjà partie de ce que nous connaissons, de ce qui devrait devenir maintenant pour ceux qui écrivent une apparence au-delà de laquelle il faudrait chercher autre chose. Tandis que quand c'est dissimulé sous une apparence banale, les autres ne le voient pas. Ça n'est pas été encore cerné, ça n'a pas été encore mis au jour, ça n'a pas encore été mis en mots, ça n'est pas devenu du langage, ça ne porte aucun nom, on ne sait pas ce que c'est. Et alors c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse. Quand Clay disait « on ne restitue pas le visible, on rend visible ce qui n'est pas visible ». C'est ça l'intérêt, je crois, de l'écriture.
Mais on a l'impression justement que dans vos livres, les personnes, disons, qui les habitent, sont toutes parcourues par une même pulsion, mais que tous se débattent justement dans quelque chose qu'ils ne savent pas et qu'ils agissent comme des gens qui doivent savoir, qui ont des règles, qu'ils connaissent, qui vivent selon ces règles. Et puis, en sous-sol, tout est effondré, en fait. Il n'y a pas de règles. Et ils sont... Et c'est pour ça que je parlais d'une sorte de panique constante, parce que pendant ce temps, le temps passe. Et eux n'ont pas le temps même de savoir qu'il se passe d'autres choses.
C'est-à-dire que les règles qui permettent de vivre, qui jouent en surface, ne servent à rien. Là, il n'y a qu'un seul moyen, et c'est comme ça que ça se passe dans la vie réelle, c'est simplement de ne pas le savoir, de ne pas en tenir compte et de faire comme si ça n'existait pas. Autrement, on ne peut pas vivre. Il ne serait pas possible dans la vie courante de s'arrêter pour regarder au microscope toutes ces choses qui, au fond, existent, qu'on sent passer vaguement.
Et c'est pour ça, je crois, que vos livres sont souvent et ont dû souvent être redoutables à lire, parce que à l'endroit où on se sent le plus tranquille, le plus en paix, on découvre tout ce qui s'agite et tout ce qui fait peur et tout ce qui, je disais tout à l'heure, menace. Je pense que lorsque vous écrivez, est-ce que vous vous sentez cette...
Non, je vous dirais même que ça m'amuse beaucoup quand les gens me disent, par exemple, que c'est terrible, c'est effrayant.
Oui.
On n'a jamais vu une chose pareille. Là, on joue cette pièce, c'est beau. Ouf, ce n'est rien. Il ne se passe rien de ce qui peut se passer d'ordinaire dans les familles les plus normales. Ce n'est rien. Ce sont vraiment des choses qui sont d'une grande délicatesse, sont des exigences. Comme je l'ai dit, le personnage, enfin, d'enfant gâté. Et alors, les gens sont choqués, mais on n'a jamais vu une chose pareille, comme s'ils n'avaient jamais vu de conflit pareil. Les propos qui s'échangent sont en apparence des propos tout à fait anodins, mais c'est beaucoup trop fort, c'est trop méchant. Mais ce n'est rien, à mes yeux, ce n'est rien. J'ai probablement une image de l'existence qui, elle, est vraiment assez tragique, parce qu'à côté de la réalité, ça me paraît rien du tout. À côté de l'effroi que peut donner la réalité, ça ne me paraît rien. Ce n'est pas du tout comme ça que ça m'apparaît quand je travaille. Et c'est la même chose quand on me dit, par exemple, ce qui est stupéfiant d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'affection, pas d'amour dans mes livres. Or, par exemple, un livre comme vous les entendez, à mon avis, c'est un livre d'amour fou, sur le plan du père,
oui,
à l'égard des enfants, et même d'une certaine manière des enfants à l'égard,
oui,
du père. Je connais très peu d'exemples où l'amour paternel se manifeste avec une telle violence, une telle force. Et bien, on a trouvé moyen de dire non, c'est de la haine, parce qu'il faut mettre une étiquette. Et dès qu'il y a de la souffrance qui amène une certaine agressivité, dès qu'il y a de la passion, tout de suite il faut mettre une étiquette, et bien c'est pas de l'amour. L'amour, ce serait quelque chose qui serait toujours à l'eau de rose. Et...
Alors qu'il y a là désir éperdu d'amour et désir frustré.
Exactement, il y a une passion. Très rare, c'est très très rare de voir une passion paternelle arriver si loin que ça. Enfin, moi, à ma connaissance, je n'en ai pour ainsi dire jamais eu.
D'ailleurs, c'est un livre qui a pour moi une très grande charge érotique. Et beaucoup de vos livres, d'ailleurs.
On me l'a dit souvent, je,
oui,
crois que c'est possible, c'est très possible. N'est-ce pas? Parce qu'il y a encore là une espèce de rétrécissement conformiste du fait que l'érotisme doit être toujours fixé à juste certains rapports,
oui,
alors qu'il est répandu dans tout,
oui,
qu'il se manifeste quelquefois dans un mot.
Mm-hmm.
Dans les tropismes, il y a une scène qui... Je dois aller lire un texte des étudiants là, à l'université. Et le professeur m'a téléphoné, ben, j'ai choisi ce texte. Ben, je lui dis, ça c'est une scène de viol. Et ben, qu'est-ce qu'il y a dans cette scène de viol dans les tropismes? C'est rien du tout. Et c'est un vieux monsieur, l'ami du père, qui vient et qui demande à la jeune fille ce qu'elle a fait l'été. Elle est allée en Angleterre. Et il lui répète, Dover, etc., en appuyant sur les mots anglais. Et elle a absolument la sensation très forte d'un viol. Et d'une certaine manière, c'en est un. Il y a une,
oui,
charge érotique dans l'attitude,
oui,
de ce vieil homme à l'égard de cette jeune fille. Il y a du sadisme, il y a une espèce de prise de possession extrêmement forte, que très vaguement elle peut sentir parce qu'elle ne se rend pas compte, mais qui est aussi forte, à mon avis, que la description d'un viol.
Oui.
N'est-ce pas? Mais il ne s'est rien passé au dehors, rien. Elle a éprouvé un vague sentiment désagréable. Et puis
mais...
c'est tout. Des mots qu'on peut dire, qu'il est tout à fait normal que ce vieux monsieur lui demande si elle a été par Douvre et comment on prononce Douvre en anglais. Et
oui,
comment on prononce Shakespeare,
oui,
ou je ne sais quoi. Le fait, c'est qu'il insiste.
Il insiste. Il...
N'est-ce pas? Et qu'il le répète. C'est dans cette répétition, il y a quelque chose qui est analogue,
oui,
à un viol.
Il la
et
force.
C'est parce que par analogie, nous avons tout éprouvé que nous pouvons arriver à tout ressentir et à tout comprendre. Si nous pouvons coïncider avec des scènes atroces que nous lisons dans les romans, mettons dans Dostoïevski ou mettons dans Shakespeare, c'est que nous l'avons expérimenté, mais en réduction, n'est-ce pas, minuscule, infime, nous savons tout ça. Autrement, ça serait pour nous l'être morte, on n'y comprendrait rien. Ce seraient des sentiments totalement inconnus. Or, justement grâce à ça, que tout s'éprouve à chaque instant, nous connaissons en tout petit infime, nous avons à dose homéopathique absorbé à peu près tout, je crois.
Oui.
Mais tout à fait sur un autre plan, mais qui fait que nous pouvons tout de suite comprendre et ressentir et savoir si c'est vrai ou faux.
Oui, mais vous arrivez justement à faire tomber les cloisonnements qui séparent ces différentes façon de distinguer les, ce qu'on a pu ressentir. Et par exemple, nous parlions tout à l'heure d'érotisme dont vous les entendez. Et d'habitude, les gens entendraient, puisqu'il s'agissait, nous l'avons dit, d'un père et de ses enfants, l'inceste. Mais ça n'est pas ça.
C'est le sentiment normal, la sensation normale, mais ou bien refoulée, ou qui n'a pas droit de citer, qui n'est pas admise de n'importe quel père à l'égard de n'importe quel... Oui. Je crois que ça fait partie de tous ces sentiments qu'on éprouve, enfin c'est tout baigné de sensualité très forte.
La vie et la mort, par exemple, qui est vraiment le déroulement de la création d'un livre, je crois. Et là se passe, dans cette création, tout ce que l'on peut ressentir et tout ce que l'on peut éprouver, justement. Mais je veux dire, toutes les modulations, toutes les pulsions sont là dans leur... particules les plus infimes.
C'est justement ça. Ce sont des particules infimes. Oui. Et c'est pour ça que dans la vie réelle, je crois qu'en dehors de ces particules infimes, il y a des très grosses choses dont la vie est remplie. Et ces particules infimes me paraissent très anodines et toutes petites et réduites à côté de la réalité. Il y a un monde, c'est pas un viol véritable de cette conversation. Ce n'est qu'une sorte de reflet qui permet de saisir ce que peut être la sensation que peut produire une sorte de viol.
Oui, et puis vous le montrez où on ne veut pas le voir, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas exceptionnel.
Oui, en plus c'est ça.
Oui, et c'est ce qui déroute.
Ça c'est juste, c'est vrai. Je suis très mauvais lecteur, paraît-il, parce que j'ai lu que maintenant on apprend aux enfants à ne pas prononcer les mots quand ils lisent. Moi, je lis comme les enfants qui disent mal. C'est-à-dire que je prononce chaque mot, ce qui fait que je lis très, très lentement. Mais on leur apprend justement à lire avec les yeux. Et de cette manière-là, ils lisent plus vite et ils disent que c'est la seule façon de lire. Moi, il faut que je prononce chaque mot et que je l'écoute. Et alors, en écrivant, c'est encore bien plus fort, parce qu'alors là, il faut que chaque mot, je l'entende, et il faut que j'entende la phrase, et j'entende le rythme de la phrase. C'est pour moi très important, il faut tout le temps que je marmonne quelque chose en écrivant. Et alors, ces mots, sur le papier, c'est des mots que j'entends.
Oui, quand vous écrivez, vous entendez.
Ah oui, absolument. Ce serait terrible si je n'entendais rien. Il faut que je les écoute, ces mots.
Est-ce que vous travaillez beaucoup chaque jour?
C'est-à-dire tous les jours, je travaille entre 2 heures, 2 heures et demie. Et je suis très fatiguée quand j'ai fini, tous les matins. Puis alors j'y repense l'après-midi où je prends des notes. À un moment donné, je travaillais aussi l'après-midi. Mais maintenant, je travaille le matin seulement. Et ces textes sont terriblement travaillés.
Oui, j'imagine.
Terriblement travaillés.
Mais est-ce que... relire, par exemple, des textes.
Et ça me gêne. Oui. J'ai l'impression que ça me dérange dans le travail que je suis en train de faire. C'est peut-être pas bon, parce que j'ai souvent l'impression d'avoir oublié tout ce que j'ai fait avant. Là, en les relisant, par moments, j'étais moi-même surprise. Je me rappelais plus certains passages. Et alors, j'ai toujours l'impression que ça va me gêner dans ce que je vais être en train de faire. Que soit je vais essayer de m'imiter moi-même, ou au contraire de m'écarter de ce que j'étais pour faire quelque chose d'autre. Enfin, il faut qu'il y ait une sorte d'inconscience tout de même dans ce travail. Et alors, j'ai peur de relire ces textes.
Il y a une inconscience, mais ce qui me frappe aussi dans toute votre œuvre, c'est qu'il y a toujours du sens. Ce ne sont pas des livres abstraits. Ah, ils sont toujours incarnés. Il n'y a pas, et c'était bien votre propos, il n'y a pas des personnages, des caractères, cette sorte de psychologie. Mais il y a toujours du sens.
Pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, le travail m'intéresse à cause du sens.
Oui.
Et puis, je pense tout à fait comme Ezra Pound que plus il y a de sens contenu dans un minimum de mots, un maximum de sens dans un minimum de mots, eh bien, c'est ça pour moi l'accomplissement. Il n'y en a pas assez de sens. J'aimerais qu'il y en ait davantage, qu'il faudrait se resserrer, resserrer encore, et surtout qu'il y ait un sens qui présente un intérêt. Mais pour moi, c'est l'essentiel. Je ne peux pas lire si je ne suis pas nourrie par du sens. La simple beauté formelle, si elle est creuse, au bout de très peu de temps, le livre me tombe des mains, je ne peux pas lire. C'est le désastre, à mon avis, quand on cherche la beauté formelle. Alors j'avais essayé dans Entre la vie et la mort, de montrer justement l'écrivain, quand il se sépare de la sensation initiale qui le nourrit, les mots, le langage qui le fait vivre, et alors il s'abandonne à la beauté des mots. Il oublie la sensation, la racine, la source d'où il part, et alors les mots l'entraînent. Il l'entraîne dans des sortes de courbes harmonieuses, dans leur beauté formelle, et alors il en est enchanté, comme ça arrive à tous les écrivains. Et puis quand il y revient plus tard et qu'il regarde le texte, il voit que c'était rien.
Oui, il dit c'est mort.
C'est mort, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Oui. Il faut tout recommencer, il faut revenir à la sensation. Alors cette sensation, comme une source, elle fait que le langage commence à jaillir, à bouger, par lui-même presque. Il s'anime de lui-même.
Je me demande justement le rapport qu'il peut y avoir entre votre œuvre et l'œuvre, enfin les découvertes de Freud par exemple, enfin la psychanalyse, parce que ça se passe là, ça se passe dans ces régions, mais il me semble que ça dure plus longtemps, que ça perdure.
Je n'ai pas l'impression que ça se passe dans les mêmes régions, parce que je crois que ce n'est pas... Si ça se passait dans l'inconscient, pour le retrouver, il me faudrait une psychanalyse. Or, ça se passe dans des régions qui sont presque conscientes, auxquelles on n'a pas le temps de s'attacher, dans lesquelles on ne s'attarde pas, mais qu'on peut retrouver. La preuve, c'est que je les retrouve, ces sensations. Elles ne sont pas au niveau de l'inconscient, elles sont au niveau de quelque chose qui est préconscient. Chacun de nous peut assez facilement les retrouver. Alors l'inconscient, il faut alors le puiser dans l'inconscient avec les instruments de Freud. Alors ça me paraît exactement l'opposé de la recherche d'un écrivain. Parce que si faibles que soient ces instruments, il faut que ce soit les siens propres et pas ceux de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas des clés, pas un système, pas une grille qui poserait déjà sur le réel?
En fait, c'est le trouble apporté par ces grands mouvements, malgré tout, du subconscient qui dérange ces gens.
Ça dérange d'une manière qui est très passagère, brève, à laquelle on ne s'attarde pas, dont on se distrait le plus vite possible. Ça fait partie, n'est-ce pas, de l'écoulement de l'existence qui est composé à chaque instant de myriades de sensations auxquelles on ne s'arrête pas. Et c'est parmi ces sensations-là, en sorte que je pêche à la ligne.
Ils sont toujours des sensations qui ont une très grande motilité. Et est-ce que, par exemple, pour vous, le mot douleur, vous l'entendez comment?
Je l'emploie quelquefois, mais j'emploie le plus rarement possible, sauf quand j'arrive déjà dans les lieux communs, dans la conscience claire, au dehors des mots comme douleur, amour, haine, etc. En réalité, ce qui se passe n'a même pas de nom, c'est même pas une douleur. On ne sait pas ce que c'est, on sent quelque chose.
Oui.
On dirait, par exemple, dans « Vous les entendez, au père, est-ce que vous éprouvez une douleur ?» Il trouvait ça tellement excessif.
Absolument. Mais le lecteur l'éprouve.
Ça, je ne peux pas m'en rendre compte.
En entendant Tropisme, le parvoyant, le relisant souvent, c'est que déjà, et c'est un livre qui a été publié en 1939, on trouve toute votre œuvre. Oui, mais ça ne veut pas dire que votre œuvre est redondante
exact,
du tout.
C'est-à-dire que c'était comme la première source, comme le sourcier d'un coup. J'ai plongé quelque chose oui. là, et quelque chose est sorti dont je n'ai plus cessé de m'occuper. C'est vraiment de là que tout est parti. D'abord, cette sensation, le rythme qu'elle a exigé, les images qu'elle a exigées, tout ça est venu de là. Et finalement, après, ce ne sont que des tropismes toujours agrandis, grandis plus complexes, parce qu'ils se passent entre plusieurs personnes, toujours les mêmes. Ça n'est plus pris pendant l'instant, ça s'étale davantage. Mais c'est toujours la même chose, c'est toujours là. C'est toujours à ce niveau des tropismes que je travaille.
Vous êtes en train de terminer un livre, je crois.
Oui.
Oui. Quelle différence y a-t-il pour vous pendant que vous écrivez ce livre et la Nathalie Sarraute qui écrivait Tropisme?
Vous voyez, comme je vous disais, comme je relis le moins possible ce que j'ai fait, là, en lisant ces textes, j'étais surprise par le fait qu'il n'y en a pas quelques-uns dont je dirais ben « maintenant ça a complètement changé, c'est autre chose ». Je peux lire indifféremment dans n'importe quel livre un morceau sans que je perçoive un grand changement, sauf peut-être dans Portrait d'un inconnu, ou dans lequel la forme, le style est plus classique, si on veut. Mais enfin, dans tous les autres, il y a des tropismes que j'aurais pu écrire maintenant.
Et dans votre façon d'écrire, de ressentir le moment d'écrire, est-ce qu'il y a eu une évolution? Je veux dire, est-ce que vous vivez différemment votre travail?
Je trouve que là, à la différence de... des peintres, du moins de ce qu'on dit, de leur travail, on n'apprend pour ainsi dire rien. J'ai toujours l'impression d'avoir des difficultés comme celles que j'avais au début, devant de nouveau une substance ou une part de substance inconnue, il y a de nouveau la même difficulté, les mêmes doutes, la même recherche. Je me dis, mais c'est extraordinaire, on dirait qu'il n'y a pas d'acquis qui viennent de l'expérience. Il y en a un peu, dans ce sens que, par exemple, c'était encore un reste des habitudes de classe, de chercher des transitions, un peu trop de logique. Maintenant, je sais, déjà, ben non, il ne faut pas perdre du temps à chercher, il n'y a qu'à sauter à pieds joints. On fait un blanc, on passe à autre chose. C'est du temps qui est gagné, qui autrefois a été perdu. Mais autrement... on est chaque fois en présence d'un commencement. J'ai toujours l'impression que je suis en train de commencer quelque chose qui ne ressemble à rien. Après, en le relisant, je vois que ça s'inscrit bien dans ce que j'ai l'habitude de faire. Mais au début, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai. À chaque passage de ce livre, j'ai l'impression d'être devant des difficultés insurmontables et telles que je n'en ai jamais surmontées. Cette fois-ci, mais ça, je vais me casser les reins, ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas. Et je me dis non, à ce point-là, je ne l'ai jamais éprouvé. Et alors mes proches me disent, mais tu ne te rappelles pas qu'à chaque livre, tu disais, mais j'abandonne, j'en peux plus, ça ne va pas. C'était un état très pénible.
Oui, c'est très impressionnant. On a l'impression justement que vous pourriez être protégé de ces états. Mais c'est parce que toujours vous cherchez ce qu'on ne sait pas.
Oui. Mais en même temps, les livres se placent, n'est-ce pas, tous à peu près sur le même terrain. Ailleurs, à d'autres endroits du même territoire.
Oui. Avec des intensités tout de même tout à fait, tout à fait différentes. Et ce prochain livre, vous pensez qu'il s'inscrira comment?
C'est très difficile d'en parler encore maintenant, surtout quand je suis encore plongée dedans.
Oui, ça je comprends très bien. Par exemple, quand vous avez terminé un livre, est-ce que vous écrivez tout de suite après? Vous savez déjà ce que vous allez faire ou est-ce qu'il y a des...
Quelquefois, les derniers temps, quand j'ai fini un livre, j'ai tout de suite écrit une pièce pour la radio ou le théâtre. C'est comme une récréation. C'est moins dur, je trouve, moins difficile que le roman. Mais autrement, je suis dans une période de vide complet. Et généralement, en finissant un livre, il y a un ou deux endroits du livre dans lesquels je sens qu'il y aurait quelque chose, une ouverture sur quelque chose que je pourrais développer plus tard. Ça s'est fait à peu près dans tous les livres. Et alors ça me rassure. Mais après ça, je reste des mois dans un état où je ne trouve pas de thème.
Et est-ce que vous vous sentez très perdu à ce moment-là? Est-ce que écrire pour vous est vraiment la vie?
Ah oui, ça m'est indispensable. Ça m'est absolument indispensable. Mais alors, à ce moment-là, je cherche, je note sur des cahiers. Ou alors, j'écris ces pièces, ça aurait été très agréable.
Écrire pour le théâtre et voir ce que vous avez écrit.
Mais écrire pour le théâtre me paraît moins difficile.
Et vous supportez de voir vos pièces et pas de relire vos livres?
J'ai l'impression que la pièce appartient déjà en grande partie au metteur en scène qui transforme le texte et aux acteurs. Alors je me sens moins concernée, moins responsable. C'est beaucoup plus agréable à ce point de vue-là.
Dans ces régions dont vous avez dit qu'elles étaient obscures et dans cette création dont vous avez dit qu'elle était ce qui existait de plus secret dans ce qui se passe entre la vie et la mort, est-ce que vous avez l'impression d'avoir, comment dirais-je, descendu dans des sous-sols plus profonds?
Plus profond, mais ça s'est étendu à autre chose, parce oui. qu'il s'agissait de l'écriture, de l'œuvre littéraire qui est toujours entre la vie et la mort. Oui. À chaque seconde, comme nous disions tout à l'heure, en cherchant la beauté, on trouve la mort, le monument funéraire, très beau. Et alors, à chaque instant, c'est menacé. Et la vie de l'écrivain, en tant qu'écrivain, depuis son enfance, menacée aussi. Menacé, justement, là, dans mon livre, on montre comment l'enfant est menacé par le danger de se vouloir poète, de chercher les objets poétiques, la poésie, c'est un désastre. Il est poussé par sa mère, parce qu'elle lui reconnaît certains dons. Il est obligé de lutter constamment contre la société, qui tantôt le pousse trop à devenir un poète, ce qui est un désastre, tantôt l'écrase et l'empêche d'en être un. Et alors, il est dans cet état à la fois de solitude qui lui est absolument nécessaire, et en même temps de recherche d'appui, de recherche de soutien, de sympathie. Il a besoin des autres pour que son travail existe. Alors, il est constamment entre la vie et la mort. La vie qu'il trouverait dans sa solitude, la mort que constitue pour lui quelquefois la vie sociale, etc. C'est pour ça que j'avais appelé ce livre comme ça. Et je me suis simplement transportée dans une région où je n'étais pas encore allée, ou très très peu. Je ne m'en étais pas occupée de cela. J'avais, en écrivant Les Fruits d'or, en terminant Les Fruits d'or, je me suis dit, ben maintenant, ça serait intéressant de s'occuper de l'écrivain. Et Les Fruits d'or, mais l'idée m'en était venue quand j'écrivais le passage de Germaine Lemaire devant sa feuille, savoir si c'est bien ou mal. Et d'où vient cette fantastique réputation qui probablement n'est basée que sur une erreur. Et alors tiens, ça serait intéressant de montrer le livre lui-même. Par exemple, quelle heure est écrit et comment ce livre vit, puis meurt, etc. Et alors c'est toujours d'un livre à l'autre que je m'étends un peu ailleurs. Je cherche ailleurs, je me transporte dans d'autres régions. Mais je me trouve toujours chez moi.
Chez vous, dans votre domaine et ce domaine. C'est
ce domaine que je n'ai jamais cessé d'habiter, si je puis dire, d'explorer. C'est celui où je me sens chez moi.
Chez Gallimard, roman, Portrait d'un inconnu, première édition, Robert Marin, 1948. Gallimard, 1956. Marthereau, 1953. Le Planétarium, 1959. Les Fruits d'or, 1963. Prix international de littérature. Entre la vie et la mort, 1968. Vous les entendez, 1972. L'ère du soupçon, essai, 1956. Le silence, le mensonge, pièce. 1967. Isma, pièce. 1970. Sebo, pièce. Cahier Renaud Barrault. Aux éditions de Minuit, Tropisme, première édition, de Noël, 1939. Édition de Minuit, 1957.
C'était Poésie ininterrompue, Nathalie Sarraute au micro de Viviane Forester, première diffusion sur France Culture le 8 février 1976.